L'appel comme d'habitude, monsieur Olivier Bonduel. Madame Marie-France Martin-Bagard est absente. Pas de pouvoir. Il y a un pouvoir pour madame Bagard, parce que je ne l'ai pas là. Donc il y a un pouvoir à madame Le Gaulois. Parfait. Monsieur Marc Lerouzic, madame Christine Lamandé, monsieur Jean-Yves de Ripper, madame Janine Le Golvan, madame Françoise Le Pennec, monsieur Charles Bietri est absent, il a donné pouvoir à monsieur Pascal Lejean, madame Marie Von Belleuil, monsieur Philippe Audeau, madame Catherine Isoard, monsieur Patrick Lotaudet, madame Christine Desjardins, monsieur Michel Durand, madame Morgane Petit, monsieur Gérard Marc-Albert, madame Karine Le Déveat. Monsieur Hervé Le Donnant a donné pouvoir à Olivier Le Pic, madame Monique Thomas, madame Armelle Moreau, monsieur Jean-Luc Servet, madame Nadine Rouet, présenteuse, monsieur Pascal Lejean, c'est fort heureux, Loïc Coudois, Sylvie Robineau, monsieur Paul Chapelle et Olivier Le Pic présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Je voudrais vous signaler et accueillir la présence de M. Boutara, qui est notre nouveau trésorier. Vous savez que le Boutara, c'est ça ? J'écorche, excusez-moi. Qui est notre nouveau trésorier, puisqu'il y a eu une réorganisation des finances publiques sur le territoire. Et maintenant, notre trésorerie vient de fermer. Et donc, il y a une trésorerie, l'ensemble des services a été regroupé à Auray, c'est ça ? Et donc, bah, écoutez, si vous pouviez vous présenter en quelques secondes aux conseillers municipaux.
Bien, ben bonsoir. Donc, comme me dit Monsieur le maire, j'étais précédemment donc trésorier à Auray, donc depuis le 1er janvier, trésorier également de Carnac. Donc à la trésorerie, ce que je disais cet après-midi, donc contrairement à celle de Carnac, donc la trésorerie d'Auray est spécialisée secteur public local, c'est-à-dire qu'à la trésorerie, on ne gère pas du tout l'impôt classique comme le faisait la trésorerie de Carnac. Hein. L'impôt reste géré par le service d'impôt des particuliers d'Auray. Donc c'est un autre service, un autre responsable. Donc au niveau de la trésorerie, donc, nous sommes donc spécialisés dans le secteur public local. Donc on gère toutes les communes d'ACTA, hein, donc les 24 communes d'ACTA, plus quelques syndicats, les centres de secours, bien sûr les CCAS, les collectivités. Et puis trois communes qui sont sur 20 agglomérations, hein, Le Bonneau, Plougoumlen et Brandivy. Voilà, merci bien. Donc, je suis très content d'être parmi vous ce soir.
Et nous également, merci beaucoup. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance, Madame Morgane Petit, vous êtes la Benjamine. J'en profite pour vous féliciter pour deuxième fois maman, il y a quelques semaines. Donc félicitations au nom du... Je crois que tout le conseil municipal peut s'associer à mes félicitations. On a besoin de remplir nos écoles, donc n'hésitez pas à continuer. Encore un peu de temps. Parfait. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 janvier 2009. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès-verbal ? Pas de commentaires. Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au compte-rendu des décisions du maire, numéroté de 2 à 27. J'imagine qu'il y a sans doute quelques questions. Monsieur Lerouzic, micro s'il vous plaît.
Décision numéro 13, c'est pour la location d'un logement communal, 11 terre rue des Corrigans. À la commission finance, il est dit que le montant du loyer s'élevait à 225,78 €. Et ici, dans la décision du maire, c'est 486 € hors charge.
C'est le bon tarif qui est marqué ici. Il y a eu une erreur.
D'accord. Merci.
Pas d'autres questions sur les décisions du maire ? Je vous remercie. On passe au point 4 de l'ordre du jour, le budget principal de la commune, avec notamment l'approbation du compte de gestion. Monsieur Lejean.
Oui, donc, comme tous les ans, on va vous montrer à l'écran et vous avez les documents qui sont avec vous. Pour d'abord le compte de gestion de la commune, après le compte de gestion du budget annexe du musée, et après le compte administratif de la commune et le compte du budget administratif du budget annexe du musée. Donc, vous avez les documents avec vous, donc je ne vais pas vous rappeler. Je vais peut-être laisser la parole à M. Boutara pour le compte de gestion.
Merci, donc si vous voulez. C'est ce que vous souhaitez, je reprenne les résultats que vous avez à l'écran et relire. Peut-être juste les... Il va peut-être avoir beaucoup de chiffres toute la journée, donc je pense que je vous fais grâce de la reprise. Enfin, donc toujours est-il que les résultats du compte de gestion donc, ont été vérifiés et sont conformes et en complète exactitude par rapport aux résultats que vous présentera tout à l'heure sur le genre des comptes administratifs. Donc concernant peut-être juste moi ce que je voulais vous présenter, quelques petits éléments de comparaison. Alors je ne vais pas, contrairement à souvent, donc on fait des comparaisons avec en euros par habitant des différents postes de la section de fonctionnement ou de la section d'investissement. Donc c'est vrai que Carnac, c'est un peu particulier dans la mesure où vous êtes quand même une collectivité littorale, donc avec une forte activité touristique et une population de résidences secondaires très importante. Donc plutôt que de vous présenter les chiffres uniquement avec la moyenne des populations de la strate, hein, donc, c'est-à-dire de la population INSEE, donc Carnac 4356 habitants, donc vous êtes dans la strate de comparaison 3500-4999. Non, je vais faire également une comparaison par rapport à la moyenne en euros par habitant de la population DGF, puisqu'en population DGF, Carnac, vous êtes à 10 394. Et donc, c'est par cette population DGF que les comparaisons se font en général sur les communes littorales touristiques. Donc, concernant tout d'abord la section de fonctionnement, donc les produits de fonctionnement sont un peu supérieurs à 12 950 euros et les produits réels, 11 870 000, donc ce qui représente 2 725 euros par habitant. Et par rapport à la population DGF, donc on est à 1 142 euros par habitant. Et par comparaison, pour les communes qui sont dans la strate juste inférieure à 10 000 habitants, parce que je rappelle hein, la population DGF Carnac, on est à 10 394, donc je voulais juste vous donner la moyenne des 10 000 et la moyenne des 20 000. Donc 1 142 pour les produits de fonctionnement, pour les 10 000, 1151 et pour les 20 000, 1197. Donc vous voyez que c'est très proche des moyennes des communes littorales touristiques. Sur la fiscalité locale, donc en produits, donc vous êtes à 600 euros, j'ai dit environ. Donc la moyenne, c'est 629 et 736 pour les 10 000 et 20 000. Pour la dotation globale de fonctionnement, vous êtes à 83 en population DGF, euros par habitant, et contre 125 en moyenne et 118. Donc, une DGF peut-être, c'est inférieur par rapport aux communes comparatives de communes littorales. Même si quand on regarde le montant DGF, si on regarde par rapport aux communes de la strate en population classique, bah c'est l'inverse. Hein, là, vous êtes à 198 euros par habitant contre une moyenne de 180. Donc, vous voyez, donc c'est toujours un peu délicat de faire des comparaisons au niveau des moyennes en euros par habitant.
Bonjour, vous pouvez nous éclairer sur comment est calculée la DGF. Je suis preneur.
Alors, j'ai une fiche, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous éclaire beaucoup, puisque... C'est quand même assez complexe et frais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Hein, c'est vrai, on parle souvent de la voirie, de la population, mais on a également le potentiel fiscal, bien sûr, qui rentre en ligne de compte.
Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'écart avec Quiberon. Enfin, je me souviens, quand j'étais adjoint en finance, il y avait quasiment 1 million d'euros d'écart entre la DGF de Quiberon et de Carnac. Alors j'imagine que le port doit sûrement peut-être chef lieu de canton et port.
Là aussi, ça c'est un élément qui joue pas mal. Effectivement, le port, l'aéroport aussi, sans doute, devait jouer. Mais effectivement, il y a tellement d'éléments. Donc, vous dire que c'est celui-là ou un autre, je ne me lancerai pas là-dedans. Plus que c'est le service de l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on a hein, les éléments, mais après on n'a pas les pourcentages qui font que c'est celui-là ou tel autre qui intervient et on ne sait pas non plus dans quelle proportion. Bon, c'est tellement complexe que voilà. Donc concernant les charges de fonctionnement, donc elles représentent 903 euros en population DGF. Entre 960 et 997, donc là c'est plutôt une bonne chose. Donc on voit que vous voyez que les produits, on était vraiment très proche des moyennes des communes littorales touristiques. En charge, on est un petit peu inférieur, donc c'est plutôt une bonne chose. Des produits supérieurs et des charges moindres, donc tant mieux. Donc au niveau des charges de personnel également, alors là aussi, donc selon ce qu'on compare. Donc, si on fait la moyenne INSEE, population INSEE, Carnac, on est à 862 euros par habitant. Et donc, en moyenne, des communes du département, on est à 357. Donc, vous voyez les charges de personnel. Donc là, c'est largement supérieur. Mais si on compare par rapport à la population DGF des communes littorales de 10 000 ou 20 000 habitants, donc 361 pour Carnac, 535 et 565 pour les communes de plus de 20 000. Donc là, c'est très bien. Ouais, donc, enfin, très bien, à condition que les services soient rendus, hein, toute chose égale par ailleurs. Mais c'est plutôt voilà, un montant qui est maîtrisé, tout à fait. Donc, les dépenses d'équipement donc en 2018, bon, ben là, elles ont été très importantes, hein, plus de 4 millions d'euros, hein, 1003 euros par habitant, INSEE, contre 440 en moyenne. Et par rapport aux communes littorales, donc, ça représente 420 euros par habitant, contre 289 ou 256, 10 000, 20 000. Donc, largement supérieur également. Donc, l'encours total de dette, donc un peu moins de 5 millions d'euros, donc ce qui représente 1147 sur la population spécifique INSEE, et en population DGF, 481 euros par habitant, contre 1038 en moyenne. Hein, donc, pour les communes de 10 000 et 1049 pour les communes de 20 000, donc moins du double. Enfin, deux fois moins. Donc, c'est plutôt bon également. Alors, donc, c'est vrai que cette année, donc, il y a eu une négociation courant 2018. Donc, le ratio de rigidité qui lui va prendre la proportion des dépenses obligatoires sur votre section de fonctionnement rapportée au produit de fonctionnement réel, c'est-à-dire on va isoler toutes les charges quasi incompressibles, que sont les charges de personnel ou ce qu'on appelle les contingents, les participations obligatoires. Donc le ratio, il est de 35,15, donc c'est un excellent ratio, parce qu'on estime qu'il est bon dès lors qu'il est inférieur à 47. Donc il y a déjà 10 points, 12 points de moins, et quand c'est supérieur à 45, donc là on estime que c'est une phase critique, donc il y a de la marge. Hein. Donc concernant les fonds de roulement, donc le nombre de charges, le nombre de jours en fait, en utilisant vos produits pour pouvoir faire face aux charges réelles de fonctionnement, donc ça représente 245 jours, donc vos produits permettent d'avoir un peu de marge au niveau du fonds de roulement, donc la trésorerie, donc c'est bien. Le ratio d'endettement, il est à 0,42, donc ce qui représente 5 mois de produits de fonctionnement pour rembourser la dette, donc par rapport aux communes littorales, on est à 11 mois en moyenne. Hein, donc là, c'est l'encours de la dette rapporté au produit réel de fonctionnement. Et le dernier, donc ce qu'on appelle le ratio de capacité de désendettement. Donc là, on va prendre l'encours total de la dette rapporté à la CAF, hein, c'est-à-dire ce que vous dégagez comme possibilité d'autofinancement sur votre section de fonctionnement. Donc on est à 2 années de CAF brute. Donc c'est un ratio qui est estimé comme étant très bien maîtrisé quand c'est inférieur à 3. Même faible, maîtrisé quand c'est inférieur à 6, et quand c'est supérieur à 6, on dit que la collectivité s'approche d'une situation de surendettement. Donc là on est à 2, donc en moyenne les communes littorales on est à 5,5, 6,2. Donc là encore, donc, pas de soucis. Pour terminer, donc quelques petits éléments de fiscalité. Donc sur la population globale de 4356 habitants, donc population INSEE, donc on a 2957 foyers fiscaux sur Carnac. Alors là, c'est les éléments de 2017, puisqu'on n'a pas encore la restitution 2018. Sur ces 2957 foyers fiscaux, 51% sont non imposables, hein, contre 58,8% en moyenne. Et le revenu fiscal moyen par foyer 2017 était de 29 825 contre 25 484 pour la moyenne des communes de la strate dans le département. Alors, nombre de logements, et donc là, c'est là où on voit quand même l'importance aussi des résidences secondaires. Nombre de logements imposés à taxe d'habitation, 7 875, vous voyez, hein, sur une population de 4356 habitants. Donc 68,9% de résidences secondaires. Ce qui est contre 21,6 en moyenne dans les communes du département. Donc voilà, donc là, concernant les bases imposées aux fonciers bâtis, c'est essentiellement les locaux d'habitation et les locaux à usage industriel et commercial, hein, puisqu'il n'y a pas de... Concernant les bases, bien, c'est vrai que vous avez la chance de bénéficier de bases fiscales importantes, hein, puisqu'elles représentent 5 864 euros pour la taxe d'habitation contre 1460 en moyenne. Pour le foncier bâti, 3878 contre 1201 en moyenne. Et le foncier non bâti, donc là, c'est 35 contre 44. Donc, de fait, vous avez des taux de enfin, de fait, c'est pas une obligation, mais ça s'explique aussi. Donc, vous avez des taux très bien maîtrisés, hein, concernant que ce soit le taux sur la taxe d'habitation, puisque il est le taux voté par la commune, 10,45 contre 12,97 en moyenne sur les communes. Pour le foncier bâti, on est à 14,89 contre 20,08. Et pour le foncier non bâti, à 21,86 contre 44,06. Donc, même si les taux sont plus faibles que la moyenne, les taux de fiscalité sur la commune, donc vous avez néanmoins un produit fiscal largement supérieur du fait des bases importantes, hein, puisque le produit de la taxe d'habitation rapporte 613 euros par habitant par la commune contre 189 euros en moyenne. Et sur le foncier bâti, 564 contre 135 en moyenne. Voilà ce que je peux vous dire rapidement, parce que je crois que vous allez encore avoir plein d'éléments.
Parfait. S'il y a des questions à poser au trésorier, profitez-en. Je retiens que la situation de la commune est plutôt bonne, voire excellente, même s'il faut évidemment garder toujours à l'esprit qu'elle peut se dégrader très vite. Hein. Donc, on a une exigence, je dirais, de bonne gestion, mais en tout cas ces ratios très intéressants de nous les rappeler, même si effectivement la comparaison est toujours un petit peu difficile quand on a une population DGF très importante, et toujours comparer des carottes avec des carottes. Et c'est vrai que le bon sens voudrait qu'en termes de finances publiques on se compare à des stations balnéaires similaires plutôt qu'à des villes de la même strate en termes d'habitants, parce qu'on a une structure évidemment financière qui est très différente. Est-ce qu'il y a des questions pour le trésorier avant qu'on passe, ou des questions sur ce compte de gestion de la commune 2018? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Et le reste vote pour. Je vous remercie. Monsieur Lejean, on passe au budget annexe, le compte de gestion du musée.
Oui, je vais faire la même chose. Je vais laisser peut-être pour le compte de gestion. Oui.
Là, les comptes, bon, je peux en dire les résultats, mais j'ai juste... Voilà, donc les résultats du budget musée, donc on a un résultat... Oui, parce que ça y est, non, je ne comprenais plus. Donc on avait un déficit d'investissement 2017 de 34 660,90. Donc le déficit 2018 est de 2253,97. Donc on a un résultat de clôture en investissement de 36 914,87. Donc le résultat en fonctionnement est à zéro, puisque donc, il y a une subvention d'équilibre sur la section. Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte de gestion du budget annexe du musée ? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, on passe au budget principal de la commune, cette fois-ci, le compte administratif.
Alors, on va retrouver un petit peu l'ensemble des éléments que ce trésorier a bien voulu nous donner. Et Pas tout de suite. Et donc, j'ai voulu vous présenter... des chiffres un petit peu retraités, hein, comme l'a expliqué M. le Trésorier, il y a eu des événements un petit peu exceptionnels cette année avec le remboursement de notre emprunt structuré en emprunt classique, donc qui intervient à deux niveaux effectivement dans notre compta et qui a tendance à faire éclater un peu le budget quand on le regarde au premier abord. Donc on va passer au slide suivant où j'ai retiré effectivement tout ce qui était exceptionnel, c'est-à-dire... tout ce qui était le remboursement de l'emprunt, puisque c'est un remboursement d'emprunt à la hauteur de 3,4 millions, donc plus le nouvel emprunt de 3,4 millions, ce qui fait 6,8 millions. L'emprunt de 650 000 qui a été fait par la commune. Le leg de 514, le leg R0, la cession Bouygues et le remboursement de l'IRA à la hauteur de 541 000 euros. ce qui vous donne une effectivement quasiment la même chose que l'année dernière. Si on enlève tout ça, on a une baisse effectivement de 1%. Un autre graphe qui vous le présente différemment, c'est la même chose, hein, c'est juste un comparatif. Et là, on voit mieux qu'il était important de retraiter les chiffres pour avoir le comparatif sur les différentes années passées. Dans le détail du fonctionnement, je vais faire rapide, parce qu'on m'a demandé d'être rapide, hein, vous retrouvez les chiffres. Donc là, toujours derrière, on voit dans ces chiffres-là, et on va le détailler par la suite, que l'écart s'est un petit peu resserré entre 2017, mais si ça s'explique avec quatre chiffres, hein, vous allez voir, c'est relativement simple. Derrière, vous retrouvez donc les recettes et dépenses de fonctionnement sous un autre graphe, et donc là, vous avez les dépenses de fonctionnement sur les principaux chapitres, salaires, frais généraux, subventions, contributions, frais financiers. Sur l'aspect frais financiers, donc on va en parler tout de suite. Je vous rappelle, dans la renégociation de notre emprunt, il y a dedans 95 000 euros d'IRA qui restent à la charge de la commune et donc qui interviennent effectivement dans l'année 2018. Donc là, on a déjà quelque chose d'exceptionnel aussi au niveau des frais financiers qu'on ne retrouvera pas par la suite. Les salaires sont maîtrisés. On revient à un niveau de 2015, un peu plus que effectivement 2017, les frais généraux quasiment, subventions, contributions. Un petit peu plus, on en discutera dans le détail. Sur le slide suivant, vous avez les impôts locaux et l'État. Dans l'État autre, entre autres, vous avez la DGF. Sur ces deux graphes, il y a un impact financier pour cette année, puisque dans la DGF, il y a moins 135 000 euros par rapport à 2017. Et sur les impôts locaux, du fait des taux qui ont été votés les dernières, ça a un impact d'à peu près un petit peu moins de 100 000 euros. Sur les principales recettes de fonctionnement, vous retrouvez différentes choses, le casino, les droits de mutation, les produits de service, la taxe de séjour. Sur le casino, nous étions en 2017 à 736 000 euros, on est à 688 000 euros, une baisse pour l'année 2018 qui s'explique entre autres par le fait de l'ouverture définitive du casino de Vannes et aussi d'un été qui n'était peut-être pas favorable aux activités d'intérieur, puisqu'on va le retrouver aussi sur le musée, cette petite problématique, et dans différentes activités qui sont effectivement des activités d'intérieur. On pense, ça on le verra dans le doc tout à l'heure, on en discutera, sur la taxe de séjour, vous avez le petit décalage entre la taxe réelle de séjour et la taxe qui est versée, parce qu'il y a les rattrapages des années N-1 entre le moment ou qu'on les reçoit, si même s'ils correspondent à une année 2018, on en reçoit toujours pour 2018 en 2019, comme on en a reçu en 2018 pour 2017. Donc c'est rattaché à 2018. Donc elle n'est pas en baisse, elle est en progression réelle, mais sur ce rattrapage-là, vous avez une petite baisse. Sur les droits de mutation qui sont en progression, on est passé de 835 à 922 000 euros. Et sur les produits et services, on est passé de 864 à 1037 euros. Vous avez le petit tableau, il y a, pour expliquer l'excédent de 2018 qui est en baisse de 12,67% par rapport à 2017, je pense qu'il est le plus important, ça s'explique par quatre lignes, je vous les ai déjà données mais je vais vous les redonner rapidement. Frais financiers, vous voyez une progression, on passe à 290 000 euros puisqu'il y a 95 000 euros dedans d'IRA à la charge de la commune qui sera compensé par un fonds de soutien qui a été mis en place par l'État, mais qui sera effectivement débloqué au fur et à mesure des années restantes. Vous avez de l'autre côté des dotations d'amortissement qui augmentent. Alors effectivement, dans la compta publique, c'est une dépense au niveau du fonctionnement qui dit plus d'amortissement, dit en général dû à plus d'investissement. Et vous le retrouverez dans le DOB, qu'effectivement, ça va encore grimper pour les années à venir. Par contre, il faut savoir que c'est une recette en investissement. Si c'est une dépense en fonctionnement, c'est une recette en investissement. Donc, ce qui explique une partie du décalage de l'excédent 2018 par rapport à 2017. Et de l'autre côté, en termes de recettes, vous avez l'impact des impôts, l'impact de ce qu'on a voté en termes de taux, qui a un impact un peu moins de 100 000 euros. Et vous avez les droits de, pas les droits de mutation, pardon, la DGF, qui a effectivement un baissé de 135 000 euros, et la petite baisse sur le casino. Et ce qui donne effectivement un excédent pour l'année 2018 de 2 254 000 avec le report de 3 249 000, ce qui fait une baisse de 300, un peu plus de 300 000 euros sur les explications que je vous ai données qui sont un peu plus de 400 000 euros. Les recettes d'investissement, donc pareil, brut, effectivement, avec les emprunts, vous voyez la portion du camembert la plus importante, les 6 824 qui sont ce qu'on appelle opération patrimoine, mais qui sont l'emprunt qui a été remboursé et le nouvel emprunt que nous avons fait. Dedans, vous avez l'affectation du résultat, les subventions, les amortissements qui ont grimpé, je vous en ai parlé, la taxe d'aménagement, les opérations de cession, le FCTVA et le nouvel emprunt qui a été fait pour 650 000 euros. Le comparatif des recettes d'investissement hors remboursement emprunt pour retraiter, pour éviter que ce soit problématique par rapport aux autres années, 5 363. Les dépenses d'investissement, on va bien sûr retrouver la problématique si on compare les mêmes chiffres, les 6 124, vous les avez effectivement en entrée et en dépenses. Après, donc, il faut retraiter, vous avez les études, la voirie, santé, sécurité, le pluvial, quitter des eaux, bâtiments, infrastructures, terrain, jardin, cimetière, mobilier matériel, remboursement du capital, opération de patrimoine, remboursement d'emprunt que j'ai expliqué, et les divers. Si on prend un comparatif sur les différentes années, voilà un petit peu les différences de dépenses d'investissement hors emprunt. Bien sûr, on sait que ces dépenses ont grimpé puisque nous avons voté des APCP pour les travaux qui sont en cours, qu'on verra dans le détail dans un autre, dans son étudiant, le DOB. La capacité d'investissement de 5 341 000 qui se répartit en excédent de fonctionnement, en amortissement, que je vous parlais tout à l'heure, on les avait en dépenses de fonctionnement, vous les retrouvez là, les subventions, la taxe d'aménagement, le FCTVA, reste à recevoir, des cessions, et le nouvel emprunt, office du tourisme. La capacité d'autofinancement de 2018 comparée aux autres années, là on voit bien sur ce graphe-là la progression des dotations aux amortissements et l'excédent de fonctionnement de 2 581, nous sommes passés à 2 254, avec les quatre explications que je vous ai données tout à l'heure. On retrouve la capacité globale d'investissement en reprenant les années antérieures. Vous avez pour 2018 les 2 254, les 764, moins 114 que vous avez en déficit d'investissement. Effectivement, on a investi plus, on a dépensé plus en investissement qu'on avait de recettes, donc on a moins 114. On retrouvera de toute façon aussi l'année prochaine un négatif, puisque on est dans la période des APCP et qu'effectivement, les investissements sont plus importants que les recettes de l'année en termes d'investissement. Ce qui était prévu avec les APCP. L'excédent global avec report, donc vous retrouvez 2017 7 122, 2018 6 408. Juste une petite explication. Dans les 6 408, vous avez l'excédent de fonctionnement pour 2 254. Vous avez l'excédent de fonctionnement de N-1 pour 995. Vous avez le déficit d'investissement de l'année de moins 114. Et vous avez l'excédent d'investissement des autres années pour 3 272. La dette. Boitourat vous a parlé tout à l'heure de la dette, des ratios qu'il avait. Donc aujourd'hui, on a une dette à 4 995 contre 4 917. Elle s'explique par un remboursement du capital sur les emprunts qui étaient en cours, plus le nouveau capital pour effectivement 665 000 euros. Les recettes réelles, 14 133, ce qui nous donne, qui représente 35,34 des recettes réelles de fonctionnement 2018 contre 37,60. Pour 2017, si le pourcentage est meilleur, effectivement, c'est parce que les recettes réelles ont augmenté. Le graphe suivant, vous avez la CAF. Donc, moi, je suis à 1,65 de CAF pour 2018. Vous voyez
payer la CAF par rapport à la dette. Sur la dette par habitant, on l'a expliqué tout à l'heure, vous le retrouvez ici entre la différence habitant INSEE, habitant DGF, et avec une moyenne nationale de 940 par habitant, DGF, donc sur une base de comparaison au niveau de 10 000 habitants, quand nous on est à 481. L'analyse financière sur les petits ratios, donc on a une dette sur recettes réelles de fonctionnement, c'est-à-dire 4 995 sur 14 406, qui représente 34,67, qui est inférieure à 80%. On a une dette sur la capacité d'autofinancement qui est de 1,65 années, donc inférieure à 8. Une annuité de la dette, alors j'ai peut-être mes références qui sont peut-être améliorées apparemment, si j'ai bien compris. Doit être un peu ancienne, j'ai fait des copier-coller, donc là il faut que je réajuste. Une annuité de la dette, recette réelle de fonctionnement de 5,36% inférieure à 20. Une rigidité des charges de structure, ce sont les frais de personnel, plus la part obligatoire, plus les frais financiers sur recette réelle de fonctionnement, donc qui est à 31,93 inférieure à 50. Des charges de personnel sur les recettes réelles de fonctionnement à 26,66. 3 841 sur 14 406, un ratio qui a baissé parce qu'on est sur une base de 14 406. C'est pour ça qu'il faut les prendre avec prudence quand même. Je préfère ce qu'il y a après sur les bases communes touristiques hors montagne, 3 500 habitants, 10 000 habitants, où on a des charges personnelles sur des charges réelles de fonctionnement. D'accord ? Et là, effectivement, les charges réelles de fonctionnement, c'est quoi ? C'est les 11 373 moins les travaux en régie. Son prix, qui atteint 34,60% pour une moyenne de la SRAT de 53,30. Un taux de taxe d'habitation 2018, 10,45, j'ai 16,66 pour la SRAT. Apparemment, il faut que je la rajuste, si j'ai bien compris. Donc, on est preneur des nouveaux... Non ? D'accord. On est allé chercher sur Internet...
Les moyennes, c'est 2018, celle que je vous ai produite. Donc, moyenne des communes de la Strat. Là, ça, c'est les 16,66. Moi, la Strat, si je prends la Strat, 3 500 habitants, 5 000 habitants, hein, donc population INSEE. Pour le taux voté par la commune, donc j'ai dit 10,45, la moyenne, c'est 12,97. Moyenne régionale, 15,54. Et moyenne nationale, 14,29. Ça, c'est les taux votés par la commune.
Ouais, et sur les communes de 3 500 à 10 000, parce que nous, on est allé sur 3 500 à 10 000. Je ne
pourrais pas vous dire.
D'accord. Non, mais c'est juste voilà, pour qu'on ait à un moment les mêmes choses. Oui, tout à fait. Ah, mais de toute façon, vous avez confirmé qu'on était en dessous, c'était le principal. Les taux de la taxe foncière bâtie 2018, 14,89, 19,34. Et les taux de taxe foncière non bâtie 21,86 pour 41,92. Les chiffres clés, donc un excédent global de clôture qui est en baisse derrière, effectivement dû aux investissements, une dette qui représente 1,65 d'année de la CAF annuelle, et tout ceci avec une baisse toujours importante de la DGF, bien sûr comparée entre 2017 et 2018, qu'on ne retrouvera pas. Enfin, on retrouvera une baisse de la DGF, mais on n'aura plus la contribution au désendettement de l'État, puisqu'il y a la grande partie de la baisse de la DGF, c'est dû à la contribution au désendettement de l'État, qui n'existe plus depuis 2018 et qu'on n'aura pas en 2019. Mais effectivement, on a quand même une DGF que tous les ans, elle baisse. On a fait des petites choses. Les ressources de la commune pour 100 euros, pour avoir une petite idée. Hein, 100 euros, c'est bien doux. 100 euros, merci Paul. Je pense qu'il y en a au moins 50 dans la salle qui ont dû faire la même chose que toi. Je suis désolé, mais je pense que je ne changerai pas. 100 euros. Impôts locaux, 100 euros. Ah non, j'ai eu peur. Bon. Impôts locaux, 25,19. L'État, collectivité, 13,46. Les attributions de compensation, 21,41. Je vous rappelle, les attributions de compensation, juste pour vous donner une petite information, c'est le transfert de compétences qui a eu lieu en 2014 avec la communauté de communes. où à chaque fois qu'il y a eu un transfert de compétences, il y a eu une CLEC qui a été faite. La CLEC, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées, où on regarde les charges et les recettes. Et effectivement, la commune de Carnac a transféré plus de recettes que de charges, donc elle a une attribution de compensation du fait d'ACTA. Les recettes d'ordre et les ressources propres qui sont les produits. Alors dans les ressources propres, hein, on a quand même effectivement les taxes de jeu, les droits de mutation qui sont liés à l'activité de la commune. C'est pour différencier par rapport aux impôts locaux. Avec 100 euros, ça va me perturber là. En dépenses de fonctionnement, on a 22,72 pour des frais généraux, 34,18 qui vont pour les frais de personnel, 3 euros pour les frais financiers exceptionnels, je vous expliquais tout à l'heure, les amortissements pour 6,94, le FNGIR pour 17,30. Alors le FNGIR, c'est le fonds de solidarité entre les diverses communes, on le verra un peu plus dans le DOP tout à l'heure, et les subventions, associations, contributions pour 15,86. Et vous avez un petit camembert qui vous donne au niveau de l'investissement aujourd'hui. Voilà, on a 22,71 qui sont dépensés dans les bâtiments équipements, 5,63 pour le matériel mobilier, 45,51 circulation douce, voirie, sécurité, c'est les gros travaux qui sont en cours aujourd'hui, 1,43 jardin, cimetière, études, les opérations financières, c'est le remboursement du capital pour 20,44, réseau pluvial pour 4,28.
Merci, Monsieur Lejean. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce compte administratif, Monsieur Derrida?
Vous pouvez revenir sur les dépenses d'investissement, Monsieur Lejean. C'est pour moi, c'est la page 15. Vous avez un camembert et un comparatif.
Un camembert ou
et un comparatif. En ce qui concerne le camembert, j'aimerais avoir une explication. Voilà, c'est ça. J'aimerais avoir une explication sur le chiffre. Les 12 302, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de ce qui est engagé, de ce qui est mandaté, de ce qui est... Il s'agit de quoi? Sur 2018.
Sur 2018, ce qui est mandaté. Engagé, mandaté.
12 202 sur 2018 en dépenses d'investissement mandatées.
Mais vous avez, je viens d'expliquer, vous avez 6 824 qui sont dus aux emprunts. 3 412 de remboursement de l'emprunt, 3 412 du nouvel emprunt.
Donc dans le comparatif suivant, les 5 479 000, ça correspond à ce qui est mandaté au emprunt. C'est ça?
Tout à fait.
D'accord. Et donc ça, quand alors j'ai additionné depuis 2014 l'ensemble des investissements mandatés, j'arrive à 11 millions. C'est-à-dire beaucoup moins que ce que vous annoncez, vous. Je n'arrive pas à trouver la correspondance entre les chiffres.
Juste, si vous voulez qu'on discute de ça, on regardera tout à l'heure dans le DOP. Dans le DOP, vous avez des tableaux.
Si vous voulez.
Qui sont, je pense, où il y a tous les détails.
Dans le DOP, en effet, vous avez une autre répartition des investissements. Et
avec le détail.
Avec un financement des investissements.
Et avec le détail, si vous voulez, derrière, sur les trois tableaux, on est bien d'accord, hein, et vous avez dans le DOP ce qui est en bleu, ce qui a été fait, oui. Ce qui est en noir, ce qui va en gras, et ainsi de suite.
D'accord.
Je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure.
On pourra en reparler tout à l'heure, d'accord. Sinon, j'ai un simple commentaire à faire, mais vous l'avez dit, en effet, l'excellent de fonctionnement, c'est le plus faible qu'on ait connu depuis 5 ans. J'irai même plus loin. Si on fait abstraction des 800 000 euros qui ont été générés en 2014 par l'augmentation des impôts, on a un excédent de fonctionnement qui est même très très inférieur à ce qu'il était en 2013.
Mon explication ne vous a pas convenu, puisque l'excédent de fonctionnement, si vous enlevez les 4 choses que je vous ai dit, il aurait été supérieur à 2017.
Je parle aussi d'un comparatif avec 2013. Il ne faut pas oublier qu'on a intégré une très forte hausse d'impôts qui permet de générer plus de 800 000 euros par an.
Comme nous avons eu une très forte baisse de la DGF, Monsieur de Ripper. Tous les ans, on va faire le même discours.
Si on recalcule...
Tous les ans, on va faire le même discours.
Oui, on va le faire. Si on calcule la DGF sur les 5 ans, on obtient 3 230 000. Si on calcule la hausse d'impôts, on obtient plus de 4 millions. Donc vous avez en votre faveur, en effet, un excédent par rapport à la baisse de la DGF.
Et c'est pour ça qu'on l'a fait, monsieur de Ripper. Alors, est-ce qu'il y a... Non, mais, monsieur de Ripper...
Donc, alors à ce moment-là, je veux faire un commentaire sur ce que vous venez de dire, puisque vous venez de dire que c'est pour ça que vous l'avez fait, la hausse d'impôts, en effet. Mais moi, je vous rappelle aussi que s'il y a une baisse de la DGF qui a été décidée par l'État, c'est justement pour inciter les collectivités locales à faire des économies, c'est-à-dire à baisser leurs dépenses de fonctionnement. Et or, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait à Carnac, puisque les dépenses de fonctionnement ont continué à augmenter. Elles sont passées de 10 millions à 10,8 millions. Donc, on a augmenté les dépenses de fonctionnement et on a compensé, en effet, la baisse de la DGF par une augmentation d'impôts.
Monsieur de Ripper, vous avez été simple conseiller municipal depuis le début de ce mandat. Je vous ferai une seule réponse. La critique est aisée, l'art est difficile. Regardez ce qui se passe dans d'autres communes, regardez les ratios. Non, vous répondrez tout à l'heure quand j'aurai terminé. Regardez les ratios de gestion de cette commune. Effectivement, c'est toujours facile de poser une analyse sur un point très particulier. Regardez, je dirais, l'ensemble de la gestion de cette commune. Regardez ces ratios. Évidemment, ça vous ferait tellement plaisir de dire qu'elle est en difficulté financière ou qu'elle est mal gérée. Je peux vous dire que, je le dis sans fanfaronner, parce que ce n'est pas simplement cette municipalité. Il y a eu des municipalités précédentes qui sont aussi à l'origine du fait que nous ayons une commune qui est dans une excellente santé financière, ce qui nous a été rappelé. Donc, encore une fois, voilà, la critique est aisée, l'art est difficile. Je ne sais pas si vous auriez fait mieux.
Peut-être. Allez-vous me donner l'occasion de le faire, monsieur le maire ?
Ça, c'est les Carnacois qui en décideront, monsieur de Ripper. C'est pas moi. Je ne nomme pas le maire de Carnac. Présentez-vous au municipal en tête de liste, et puis on verra bien. Vous pouvez sortir maintenant, peut-être, hein ?
Oui. Paul.
Bien, en attendant que le maire soit sorti. Donc, nous allons procéder au vote de l'approbation du compte administratif 2018. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Donc, je vais vous présenter maintenant le budget annexe du musée. Compte administratif. Alors, c'est effectivement un peu plus simple. Hein. Vous avez donc un petit graphe qui vous reprend les dépenses, la subvention d'équilibre et les recettes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les recettes sont en baisse de 20 000 euros. On les retrouve à l'année 2016. L'année 2017, effectivement, avait été une excellente année pour le musée. On a une partie de l'explication, puisque si effectivement on a moins, mais vraiment plus que la hauteur des 8% de baisse, beaucoup plus, en pourcentage beaucoup plus important au niveau des visiteurs, on a un panier moyen qui a augmenté. Donc ce qui nous laisse espérer par la suite de retrouver une croissance sur le musée. Donc voilà, sur les dépenses, il n'y a rien de spécial. Dans le détail des dépenses, vous avez les salaires, hein, 399 pour 404 000 euros, et dans les frais généraux, 118 pour 119 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions ? On continue ? Non, c'est... Monsieur Deriba ? D'accord. Jusqu'au bout, monsieur Lejean ?
Oui. Donc, le budget d'investissement, on a un petit graphe qui reprend depuis 2013 les dépenses et les recettes en investissement. Donc, les recettes, 64 000, dépenses, 66 000, pour ça qu'il y a 2 000 euros de déficit dans les dépenses d'investissement plus le solde reporté. Avez-vous des questions ?
Oui, une simple question concernant l'investissement qui avait été prévu en 2018 pour les huisseries, investissement qui n'a pas été réalisé. D'ailleurs, c'est un investissement qui est prévu depuis plusieurs années.
Tout à fait.
Est-ce qu'il devrait être réalisé en 2019 ou pas ?
Alors, il est programmé pour 2019. On attend le retour aujourd'hui des ABF. Je vous rappelle qu'il y a eu une longue discussion à ce niveau-là sur la problématique du changement des fenêtres qui pouvait altérer les collections sur un problème de gestion de l'air à l'intérieur du musée. Donc là, on devrait avoir un retour, j'espère, pour 2019, pour pouvoir engager cette dépense derrière. Mais c'est pas moi qui vais... voilà, je l'ai juste inscrit derrière. Oui, oui, Paul.
Le maire étant sorti, on va passer de nouveau au vote concernant l'approbation du compte administratif 2018 pour le musée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Parfait. On passe au débat d'orientation budgétaire 2019. Monsieur Lejean.
Tout à fait. Donc, en introduction, vous connaissez un petit peu l'introduction, puisque c'est un peu les séminaires classiques tous les ans. Juste cette année, donc, on est toujours dans l'expectative de la problématique des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement Macron, pardon, excusez-moi, notamment avec le dégrèvement à terme de la taxe d'habitation. Et donc, qu'effectivement, on ne sait pas trop comment ça va être compensé, si ça sera une exonération complète pour tout le monde, partielle, et exactement comment elle sera compensée. Cette année, nous avons eu dans les documents administratifs, j'ai deux petits slides après, qui nous dit qu'effectivement, ça a un impact sur la commune de Carnac à la hauteur de 235 000 euros, mais qui n'a pas été aucun impact indirect pour la commune, hein, mais voilà, ils l'ont chiffré. Donc, on verra dans les années suivantes comment va être compensé cette décision par le gouvernement. Sur les contextes économiques, hein, je rappelle différentes petites choses, hein, de continuer une baisse des impôts locaux. Il convient de rappeler que la part des dépenses de personnel, même si vous estimez que nous avons grimpé énormément dans nos frais généraux, M. De Ripper, depuis 2013, entre 2013 et 2018, il y a quand même quelques années, et vous savez aussi bien que moi qu'il y a des choses qu'on ne pas vraiment la main dessus en termes d'augmentation. Ceci dit, même en retraitant avec le musée, on a quand même aujourd'hui des frais de personnel et le trésorier nous l'a rappelé quand même en début du conseil que les ratios étaient plutôt très positifs pour la commune de Carnac par rapport à la strate dans laquelle elle est. Je vous ai redonné quelques informations dedans, vous les avez eues, vous avez pu les lire, vous avez reçu le DOB. On va continuer. Je rappelle les fondamentaux. On retrouve un petit peu ce que nous a dit M. Poitouard tout à l'heure au niveau de ce qu'il faut maintenir et effectivement pour continuer à pouvoir investir sur la commune. Parce que si on a augmenté effectivement nos dépenses, on a aussi augmenté quand même les investissements sur la commune. Il suffit de se déplacer dans la commune pour le voir. La petite note sur la réforme de la taxe d'habitation qui a été entérinée par la loi de finances 2018, donc prévoit la baisse progressive à partir de 2018, puis sa suppression en 2020 pour 80% des Français. Alors, j'ai repris un texte, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai réécrit. Donc, la baisse d'agrément dépend du montant du revenu fiscal de référence ainsi que du quotient familial. La logique, c'est que les bases qui étaient prévues, retenues pour la compensation commune, soient sur les bases de 2017. On verra bien comment ce sera fait à ce niveau-là. Je vais juste tourner. Donc aujourd'hui, la seule information qui nous est donnée aux collectivités, c'est dans le rôle fiscal 1386 bis TH, où effectivement, on a une réforme de la TH commune de Carnac pour 218 410 euros pour 2018 et une réforme de la TH avec lissage pour la commune de Carnac de 6255, ce qui nous fait, pas 235, mais 225 000 euros aujourd'hui, que l'impact aurait s'il avait été effectivement imputé et non compensé. Aujourd'hui, les seuls dégrèvements qu'on a, c'est les dégrèvements qui existent pour les personnes âgées et les logements sociaux. Pour 2018, à titre d'exemple, c'est 96 579 de dégrèvements qui est compensé par l'État à la hauteur de 48 107 euros. C'est juste une petite information complémentaire par rapport effectivement à ce qui peut arriver dans le futur. On va venir sur le budget principal, dotation. Je rappelle ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, effectivement, voilà, on retrouve des chiffres. Hein, la DGF avec la contribution au désendettement de l'État. Donc, j'ai pris des points de référence qui soient 2010 et des points de référence à 2013 qui vous donnent des chiffres. Vous la retrouvez sur un graphe, mais que vous connaissez, c'est toujours le même, avec effectivement la contribution au désendettement de l'État que vous retrouvez en rouge et qui vient après l'année d'après être déduit dans le bleu au niveau de la DGF de base, ce qui fait effectivement la baisse. 2019 prévoit 830 000 euros. Pour 2020, n'ayant pas d'autres informations, j'ai remis exactement la même somme. On va passer au texte total. Donc, les propositions d'orientation. Le graphe, vous l'avez déjà vu l'année dernière, puisqu'en 2017, on est passé sur une taxe d'habitation de 10,80 à 10,45 et sur un foncier non bâti de 22,59 à 21,86. On propose aujourd'hui pour 2018, il n'y a pas de vote, hein, ça sera samedi prochain, mais de passer de 10,45 à 10,10, donc une baisse de 3,35%, et sur le foncier non bâti de 21,86 à 21,13, qui correspond aussi à moins 3,35%. On retrouve l'effort fiscal un peu trop vite, l'effort fiscal, le maintien des taux, et l'effort fiscal 2018, l'effort fiscal des Carnacois, sur les données que j'ai, M. Boutoira, à 936 en dessous de l'effort demandé au patrimoine de la même strate, qui est de 1,206. Je ne sais pas si vous avez exactement les mêmes éléments. Et voilà, le FNGIR, je vous ai mis une petite note pour le FNGIR, qui est le Fonds national de garantie individuelle des ressources, qui est un fonds de solidarité, qui a aujourd'hui un impact sur, alors aujourd'hui, hein, depuis 2014, pardon, un impact sur les finances de la commune, puisqu'il est d'1,902,679 et qui est déduit du versement du produit des impôts locaux. C'est-à-dire que si on prend la M14 et vous regardez dans le détail de la M14, vous allez avoir recette et FNGIR en dépenses d'investissement, vous allez avoir une dépense et FNGIR de fonctionnement, et vous avez le FNGIR qui est déduit en fin de compte du produit des taux des taxes locales. C'est-à-dire au lieu de recevoir 5,2 millions qui est le total des taxes locales, on reçoit que 3,3 millions. Et le fonds de solidarité, le but d'avoir une solidarité entre les communes dites riches par rapport aux communes dites pauvres, et c'est l'État qui le gère. C'est pour ça que quand vous avez les chiffres qui sont inscrits, 5 248 pour 2019 ou 5 218 pour 2018, qui sont la fiscalité directe locale, là-dessus, on ne touche que 3,3 millions. Donc, des fois, quand on dit Carnac n'est pas solidaire, on y est. Les recettes et dépenses, peut-être on va y arriver, parce que donc, recettes, pardon, hop, excusez-moi, c'est moi qui suis pas au même niveau. Donc, vous avez taxe sur la consommation d'électricité qui est quasiment stable tous les ans, qui représente un peu plus de 100 000 euros. Taxe additionnelle aux droits de mutation. Donc, on a vu sur le graphe tout à l'heure l'augmentation, on va le voir tout à l'heure aussi, l'évolution qu'on a des droits de mutation, puisqu'il y a une reprise effectivement de l'investissement immobilier, des cessions et des reprises. Donc, qui ont bénéficié à la commune dans les droits de mutation, qui est apparemment pour 2019 sur la même tendance que 2018, d'après les données qu'on peut avoir soit au niveau des partenaires financiers, soit ce qu'on peut avoir avec nos partenaires qui s'occupent de la cession de biens. La taxe de séjour en progression sur une année complète, hein, on a discuté cet après-midi, il y avait le CODIR de l'Office du Tourisme cet après-midi, vous sera présenté de toute façon la semaine prochaine dans le budget primitif, vous aurez tous les détails à ce niveau-là. Donc effectivement, où on devrait, si tout se passe bien, sauf événement exceptionnel pour 2019, effectivement avec aussi la nouvelle loi pour les opérateurs qui louent les meublés, style Airbnb, dépasser les 600 000 euros. Le casino, je vous l'ai dit, qui est en baisse pour 2018, dû à l'ouverture définitive de Vannes et un été ensoleillé moins propice aux jeux, ou du moins tout ce qui était enfermé. Par contre, il y a une forte progression des investissements de la part de l'opérateur qui gère le casino de Carnac, avec, si vous passez, vous êtes passé, je pense que tout le monde passe de temps en temps devant, vous pouvez le voir, cet investissement, qui devrait nous permettre de retrouver de la croissance, puisqu'il va avoir, on va être le premier casino du département à avoir un espace jeu extérieur. Et que statistiquement, à chaque fois qu'un casino a ouvert un espace jeu extérieur, on a retrouvé une progression assez importante. Les produits des services donc en évolution, donc on a effectivement une politique d'attractivité envers nos visiteurs et le développement de services envers sa population, faire participer l'usager du service public ou du domaine public plutôt que le contribuable, tout ce qui est la gestion du domaine public par la commune sur des opérateurs privés, valoriser le patrimoine bâti de la commune utilisé dans le cadre d'activités commerciales, de services et privés. C'est la politique qui a été mise en place sur la commune de prendre un coût réel d'un bâtiment et d'y imputer un loyer derrière, qui a été fait entre autres pour la rénovation des offices du tourisme, mais ce qui est fait aussi dans le cadre de l'achat de la Maison Bleue pour l'association Paysages de Mégalithes. Optimiser l'emplacement réservé au marché bi-hebdomadaire pour répondre à la demande croissante de places ainsi que nos marchés nocturnes. Je vous rappelle, depuis quelques années, nous avons les marchés nocturnes qui ont lieu le jeudi soir pendant la période de juillet-août. Adapter et gérer les rotations de places de stationnement dans les zones sensibles de la commune dans un souci d'éviter des abus et de préserver la facilité d'accès au commerce. Vous connaissez ces zones-là qui sont derrière. Pour l'avenir, une modification des bases de comparaison suite à la suppression de la facturité de la restauration scolaire, puisque nous allons avoir pour 2019 une évolution dans le mode de gestion du restaurant scolaire, avec l'ouverture du restaurant de Saint-Michel et l'ouverture du restaurant scolaire des Corillons. Et donc, on n'aura plus la gestion des élèves de Saint-Michel. Donc, par définition, on n'aura pas de coûts, moins de coûts, mais moins de recettes aussi, qui sont en général à peu près identiques. Dans le DOB, les évolutions prévisionnelles, donc vous avez de 2014 à 2018 les chiffres réels, de 2019-2020 des prévisions, donc sur une taxe de séjour à la hauteur de 600 000 euros, sur un casino où on a descendu à 688 de retrouver l'année 2017 pour l'année 2019 et après de retrouver une croissance, sur une droit de mutation on est monté jusqu'à 922, en prévision j'ai peut-être été un peu sage, j'ai mis 900 000 euros, ce qui était déjà proposé les années suivantes. Mais j'ai gardé le même chiffre pour 2020. Les recettes sur la TFCE, qui est l'électricité, ce que j'ai parlé tout à l'heure, qui est à la hauteur de 155, on voit très peu d'évolution à ce niveau-là. Sur les produits des services économiques, 600 000 euros. Et sur les produits des services publics, on a l'impact, effectivement, de la facturation du restaurant scolaire pour les élèves de Saint-Michel, qui se fait en deux temps, puisque pour 2019, on a une partie qui est bien sûr que c'est toujours la mairie qui s'en charge. Et à partir de septembre, ça sera Saint-Michel qui va s'en charger. Et pour 2020, bien sûr, il n'y aura plus que les enfants qui mangeront au restaurant scolaire des Corillons. Les charges de personnel pour les prochains mandats, toujours la même chose, essayer de maîtriser les charges de personnel. Souvent, on nous reproche que dans le DOB, on présente effectivement, c'est imprévisionnel, que derrière, on se retrouve décalé par rapport à la réalité. Oui, on prend effectivement les données que nous avons et les problèmes qu'on peut rencontrer à ce niveau-là, et on prend effectivement le coût maximum qui pourrait arriver à la commune. Sur les frais généraux, la maîtrise des dépenses, même si effectivement, à chaque fois qu'on fait un nouvel investissement, il y a effectivement un coût derrière. Subventions et contributions, maîtrise des dépenses tout en maintenant la dynamique associative et éducative, qui sont les principales subventions. Les frais financiers, remboursement des emprunts contractés de 2003 à 2018, on rembourse de plus en plus de capital, de moins en moins d'intérêts, et il n'y a pas d'augmentation globale de la dette. on se réserve la possibilité d'un emprunt sur des opérations spécifiques. Les principales dépenses de fonctionnement, comme je vous l'ai tout à l'heure dit, vous avez jusqu'à 2018 le réel, vous avez 2019-2020 un prévisionnel. Effectivement, on peut voir un écart, je répète ce que j'ai dit, comme l'année dernière. Hein, nous avons aujourd'hui une volonté d'anticiper une problématique qui pourrait arriver sur des absences, des non-remplacements. On pourrait aussi, à ce niveau-là, faire un calcul entre les charges de personnel brut et ce qui pourrait nous être remboursé par l'assurance sur les personnes. Je vous rappelle que la commune a une assurance pour les problèmes d'absence et qui nous donnerait effectivement des charges de personnel nettes qui seraient peut-être plus faciles à comparer. Les frais généraux, les subventions, contributions et des frais financiers, c'est toujours 2019-2020 du prévisionnel. Du prévisionnel peut-être pessimiste, mais ce qui est tout à fait normal, on reste dans un dôme. Les frais financiers, vous voyez la différence, là, ils sont plus faciles à calculer. Effectivement, c'est quasiment le chiffre qu'on vous trouverait dans le compte administratif en 2019. Et vous voyez bien l'impact des 95 000 euros du coût de l'IRA à la charge de la commune. Et le fonds de soutien n'interviendra pas à cet endroit-là, donc on ne verra pas le moins tout de suite, on le verra dans un autre endroit. Sur le slide suivant, vous allez retrouver les effectifs de la commune, qui vous redonne une vision par rapport à différentes années. Alors on pourrait se poser la question entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus en ETP. Les effectifs pourvus en ETP, on voit bien qu'ils sont quasiment relativement stable depuis de nombreuses années. Par contre, on a un graphe qui montre une évolution dans l'effectif budgétaire. Ça s'explique tout simplement, c'est qu'à une époque, il y a eu une ouverture ou un recrutement sur un poste. Il y avait 3 ouvertures de poste en fonction du grade de la personne qui pouvait être occupée. Ce qui explique qu'ils sont allés chercher, puisqu'on ne comprenait pas effectivement l'écart qu'il y avait à ce niveau-là. Là, excusez-moi. La dette, l'investissement, vous retrouvez le profil d'extinction de la dette en cours en kilos euros, donc depuis 2014 jusqu'à 2025. Je ne suis pas allé plus loin dans mon graphe, parce que le nouvel emprunt, un emprunt de 15 ans, il n'y a plus de place. Voilà, donc. 2025, on n'aura pas une extinction totale de notre dette, hein, qui nous restera 348 000 euros. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en 2018, vous voyez, en 2017, 4 917 000 euros pour 4 995 000 euros, ce qui s'explique par le nouvel emprunt. Et on revoit après effectivement la dette qui baisse. Excusez-moi. Et avec une capacité à partir de 2021, où effectivement la commune pourra plus facilement se réendetter. On va descendre de plus en plus vite. Donc, il laisse des capacités pour pouvoir investir par la suite. L'année dernière, on m'avait dit, monsieur Lejean, j'ai mis 24 millions, c'est pas ce que vous avez fait, c'est pas ce que vous ferez. Donc je vous ai refait 3 graphes pour que ce soit un peu plus clair. On était engagé sur notre mandat à faire 24 millions d'euros d'investissement. Qui étaient répartis comme ils sont présentés aujourd'hui dans le camembert. Sur le mandat jusqu'en 2020 avec les APCP qui sont en cours sur les gros travaux d'infrastructure, on arrivera à près de 30 millions d'investissements qui sont répartis en 3 postes importants que vous connaissez. C'est les 3 tableaux à suivre. Le plus gros poste étant les gros travaux, bien sûr, l'entretien, l'infrastructure et le matériel. Et donc, vous avez le détail dans les tableaux à suivre. En bleu, ce qui a été fait. En noir, grain, c'est ce qui est programmé pour l'année 2019 avec l'ensemble des APCP. Et 2020, la continuité des APCP. Il y a des APCP qui sont décalés. Pourquoi les APCP, vous vous retrouvez avec des décalages jusqu'en 2021. Je vous rappelle que la commune a une fenêtre de tir d'investissement qui se trouve entre l'automne-hiver et l'hiver-printemps. Donc vous avez des décalages en termes de réception, de facturation et de paiement. C'est pour ça que vous pouvez avoir un décalage. Vous pouvez avoir des travaux effectués mais en 2019, mais qui ne seront payés que sur 2020, par une volonté de la commune, tout simplement, c'est que la facturation n'est émise que en 2020. Donc c'est pour ça que vous en avez en 2021. En général, oui, ça correspond à ces réalisés, tout à fait. Puisque normalement, ils ont été programmés, donc c'est dans les restes à réaliser. Mais quand on refait le BP, les restes à réaliser sont repris dans le BP. Et c'est pour ça qu'en début d'année, on vote toujours une DBS. Donc là, vous avez, oui, bon, pas de problème, hein, les différents programmes. On a, dans les APCP, on les a numérotés hein, pour que vous bien les voir. Ce qui est en italique, on est bien d'accord, vous en avez deux, hein, donc on est dans l'étude sur l'avenue Mille, et donc on pense pouvoir, effectivement, ou du moins ça pourrait aboutir pour 2021. Là, on verra bien qui c'est qui fera. Par contre, pour Bellevue-Bellane, c'est EADM. Je ne sais pas. Qui peut effectivement arriver. C'est pour ça qu'on a mis aussi, qu'on se réserve la possibilité d'emprunt. S'il faut porter effectivement la sortie du dossier EADM sur Bellevue-Bellane.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur EADM, on en est où exactement? Parce que les 3,4 millions, on les a reportés déjà de l'année dernière, donc on en est où exactement?
Alors, monsieur Deriper, j'imagine que vous avez lu la presse Ouest-France ces temps.
Oui.
Vous avez vu que monsieur François Goulard a repris la présidence.
Oui.
Et donc, j'ai eu une conversation téléphonique avec lui il y a 3 semaines, et il a décidé de nettoyer les écuries d'Augias, puisque vous le savez aussi, EADM a un certain nombre de dossiers compliqués dont François Goulard entend sortir, Carnac en fait partie, et François Goulard m'a promis, une fois qu'il aurait fait, je dirais, l'audit complet de l'ensemble de cette structure, de revenir vers nous dans les mois qui viennent. Voilà où nous en sommes. Je crois que c'est une situation compliquée pour le département, et il y a d'autres dossiers, effectivement, qui sont un petit peu similaires à Carnac, puisqu'il y a eu... pour le moins une gestion un petit peu hasardeuse par la direction générale précédente de cette structure.
Donc actuellement, on en est exactement au même point qu'il y a 2 ans. Ah.
L'inscription est une prévision.
On doit, enfin, à ce moment où on a une dépense quasi certaine, on doit l'inscrire. C'est une question de sincérité budgétaire.
Sur le tableau suivant, vous avez tout ce qui est ce que j'appelle l'entretien des infrastructures, hein, ce qui a été fait derrière avec ce qui est en cours. Donc là, par rapport aux autres années, c'est que vous avez l'ensemble des chiffres qui sont en bleu. Vous n'aviez pas systématiquement les autres années. On a refait tout le calcul, on a repris tout depuis le début de 2014. Et sur le dernier tableau, vous avez les investissements matériels, l'éclairage, puisque là on avait un PPI qui était en cours, le parking rodateur, mobilier urbain, la communication, le matériel et véhicules du CTM, le matériel effectivement ADM, c'est l'administration, c'est tout ce qui peut être la bureautique, et cette année vous savez qu'il y a un changement dans la téléphonie, donc nous sommes obligés de changer aussi bien le central téléphonique de la commune pour changer de système, ainsi que de refaire tous les câblages qui sont sur des câblages analogiques et passer sur d'autres câblages. Donc derrière, je vous ai montré les dépenses pour les pas loin des 30 millions et comment on finance ces dépenses-là, les finances 2014 à 2020 pour à peu près aux alentours de 30 246 000 euros, qui se répartissent dans la CAF, l'emprunt des 650, vous connaissez, les subventions et les recettes d'investissement. La conclusion du DUB, hein, c'est essayer de stabiliser les dépenses de fonctionnement poursuite de la baisse des taux de taxes communales en taxes d'habitation en tant que taxes foncières non bâties, maintenir un fort niveau d'investissement et la possibilité au recours à l'emprunt pour des opérations spécifiques, ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
Monsieur Jean, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Monsieur Chapelle.
Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, je pense que Pascal ne les a peut-être pas, sur les modalités de calcul du FNGIR ?
Vous l'avez vu, hein, le FNGIR, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas connu de tous les conseillers municipaux, mais c'est une part payée par les Carnacois au titre de la solidarité territoriale. Ça représente une somme qui n'est pas neutre, hein, pour Carnac. Et effectivement, peu de gens s'en rendent compte. Hein. Monsieur Lejean, je pense que vous pouvez peut-être remettre ce slide. Hein. Vous voyez les montants que les contribuables carnacois versent à la solidarité pour les collectivités françaises. Hein. Ça représente quasiment 2 millions d'euros. Et effectivement, je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Il est normal que les communes qui se portent bien ou qui sont en bonne santé financière contribuent avec d'autres collectivités qui ont beaucoup plus de difficultés. Je pense que quand on est un maire d'une commune de Centre-Bretagne ou de grande couronne parisienne, il est normal que... Voilà, simplement, c'est bon de le savoir parce que, encore une fois, parfois, on dit, voilà, les communes ne sont pas solidaires. Certains gilets jaunes disent aussi qu'on ne paye pas d'impôts en France. Il y a malheureusement des chiffres qui sont incontestables, et celui-là en est un, à savoir que la commune est quand même très solidaire avec les autres communes. Il faut s'en féliciter, mais c'est bien que tout le monde le sache.
Donc, effectivement, donc le FNGIR, c'est le Fonds national de garantie individuelle des ressources. Donc, en fait, c'est un fonds qui a été mis en place au moment de la réforme de la taxe professionnelle. Quand il y a eu le transfert de la taxe professionnelle avec la CFE. Donc là, il y a eu, l'intégralité des produits, des différentes taxes professionnelles perçues par l'ensemble des collectivités. Et de par cette réforme-là, il y a eu des gagnants et des perdants. Donc, par souci de redistribution, si vous voulez, donc l'État, à ce moment-là, a créé le Fonds national de garantie individuelle des ressources. Ceux qui étaient gagnants, eh bien, sont contributeurs depuis 2014. Donc, vous, c'est votre cas. D'ailleurs, ce montant-là n'a pas changé. Hein, c'est 1,9 million depuis 2014, tous les ans. Et d'autres qui, au contraire, au moment de la réforme, ont été perdants. Donc, eux bénéficient, hein, de ce fonds en recettes. Donc, c'est pour ça que dans nos comptabilités, si vous voulez, le FNGIR, on les a des fois en dépenses pour certaines collectivités et en recettes pour d'autres. Et donc, au bout du bout, je dirais, voilà, c'est zéro.
Oui, bonjour. Comment est-ce que c'est redistribué ?
Je vous dis, au sein des communes. Donc, vous avez des communes qui, à l'époque, donc, avaient été perdantes.
Je me suis mal exprimée, pardon. Par région, par département,
Par commune. Enfin, c'est un fonds national. C'est un fonds national qui, et la répartition se fait, c'est via la préfecture avec tous les mois, donc, les collectivités reçoivent une avance, hein, donc un 1/12 du produit fiscal. Donc, ce montant, donc, comme on disait tout à l'heure, donc, vous avez un produit fiscal, par exemple, en produits communaux, 200. Vous, on ne va pas vous verser 100. On va vous verser 80 parce qu'on va retenir 20 au titre du FNGIR. Et donc, après, en termes de comptabilité, ce qu'on disait, donc, on vous demandera quand même de titrer 100, mais de faire un mandat aussi pour les 20. Et donc, en net, effectivement, vous n'avez pas eu 100, mais vous avez 20. Et d'autres collectivités, eh bien, vont avoir 20 en produits des avances, plus 20, par exemple, en produits du FNGIR, et 100 en produits fiscaux, donc eux auront 120.
En tout cas, si ta question, Armel, c'est que ça n'est pas réparti au niveau ni de la commune d'intercommunalité, ni de la région. C'est vraiment un fonds qui est collecté nationalement et qui est réparti dans l'ensemble des communes de France, après par l'État.
Et le montant, on se base sur quel montant ? Quand est-ce qu'on considère qu'une commune, elle est riche ou elle est pauvre ?
Là, le FNGIR, c'était vraiment en lien avec la réforme de la taxe professionnelle qui avait eu lieu en 2014. Donc, vous bénéficiez à l'époque de bases importantes, hein, au moment de la réforme. Donc, quand ça a été revu, la collectivité a plutôt été gagnante. Donc, à ce titre-là, le gouvernement a estimé
parce que d'autres collectivités, au moment de la réforme, ont été extrêmement, extrêmement perdantes. Donc s'il n'y avait pas eu ce fonds national de péréquation, ça aurait pu mettre en difficulté aussi certaines collectivités. Donc, mais c'est national. Donc, alors, pour le moment, c'est vrai que c'est un fonds qui perdure. Après, là, j'ai pas d'indication pour vous dire si ça durera, si ça sera pérenne ou non. Voilà. Mais c'est vrai que ce soit le prélèvement sur le fonds national ou le reversement, enfin, ou le versement, les montants n'ont pas changé. Et quels que soient les départements ou les communes, hein, on a des communes, moi il y a quelques années, je vais en Centre-Bretagne, on avait aussi des communes qui versaient du FNGIR. Hein, c'est pas exclusivement des communes littorales ou touristiques. Hein. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, Monsieur Dripin?
Oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant le financement des investissements. Vous pouvez nous réafficher la répartition. C'est la dernière page. Oui. Voilà, celui-là, oui, avec les 30 millions. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, et justement, on est tombé d'accord sur les restes à réaliser. Quand on reprend la totalité des investissements actuellement mandatés, à fin 2018, on obtient 11 millions. Alors, étant donné qu'on doit investir 30 millions à la fin de l'année 2020, est-ce que ça veut dire que sur les années 2019 et 2020, on va mandater 20 millions?
Mais attendez, M. Dripper, je ne comprends pas votre question. Vous avez les tableaux juste avant.
Oui.
Vous les avez regardés. Vous les avez faits dans le détail.
Oui.
Donc, soit mes calculs sont mauvais, possible, peut-être pas bon.
11 millions, c'est 11 millions.
Non, mais attendez, vous les avez. Alors, je n'ai pas fait le même. Il faut reprendre les trois tableaux, hein, on est bien d'accord, que vous avez avant.
Ouais.
D'accord, on peut revenir.
Ce qu'on peut retenir, M. Dripper, c'est que voilà, ces chiffres sont les bons. Après, vous pouvez les recalculer en rentrant chez vous.
Mais non, mais c'est pas vrai.
On n'essaye pas, de dire qu'on fait 30 millions alors qu'on en fait 11.
Mais hein. Non, mais pas du tout. Non. Je suis en train de dire que vous allez aller au bout de vos investissements, mais que comme il y a 30 millions à investir et que pour l'instant, on en a mandaté 11, il en reste donc 20 à mandater. C'est exactement ce que je veux dire. Bah, c'est des calculs. C'est le calcul qui vient directement des...
Non, mais Monsieur Dripper, on va arrêter de jouer. Attendez.
Mais je ne joue pas. Je voudrais savoir. Je voudrais simplement.
Restez calme, Monsieur Dripper.
Je voudrais quand même savoir si le mandatement va déborder sur les mandats suivants.
Alors, on va reprendre les tableaux puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ils sont juste avant. On est d'accord. Tout est écrit. Les APCP, on les a votés. On est bien d'accord ou pas? Donc, est-ce que ces tableaux ne donnent pas une réponse à votre question?
Non, pas vraiment.
Donc, ça veut dire que mes tableaux sont faux?
Non, je ne dis pas que vos tableaux, absolument pas. Tous les chiffres sont exacts. Bon. Mais quand vous reprenez le calcul exact aussi sur l'année 14, on arrive à ce résultat-là.
Les APCP, quand vous reprenez le total déjà l'année 2019, on enlève EADEM, on est bien d'accord, c'est en italique, hein, je n'ai pas tenu compte, hein. On est bien d'accord. Vous faites le montant, vous avez déjà une grande partie de votre réponse.
Mais je suis d'accord avec les
30
millions.
Vous reprenez 2020 et vous reprenez les deux lignes qui restent sur 2021. Pascal,
Monsieur Dripper, si vous n'avez que ça à dire sur le DOM, franchement, je suis aux anges.
Non, mais
je suis aux anges parce que là, on pèse des deux mouches avec l'étoile d'araignée.
Je pose une question, vous me répondez à côté, d'accord.
Et par ailleurs,
Monsieur Dripper,
restez calme.
Oui, pas de
problème. Non, mais là, vous êtes...
Vous répondez à côté de la question. Pas de problème. Tout. Alors, je continue quand même sur la question. Dans le financement des investissements, est-ce que vous pouvez me le réafficher, s'il vous plaît? Ce que je voudrais... Je suis d'accord sur la CAF, c'est-à-dire sur le financement qui tient à la CAF, puisqu'on fait en gros 3 millions de CAF par an, donc par 7, on est à 21 millions, ok, pas de problème. Sur les subventions et sur les recettes d'investissement, je suis un petit peu moins d'accord. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on fait le calcul des subventions qu'on a reçues, on est à peine à la moitié des subventions reçues. Et en ce qui concerne les recettes d'investissement aussi. Donc ma question, c'est simplement de savoir si on ne va pas quand même, à un moment ou à un autre, devoir faire appel à l'emprunt. Et si il ne serait pas judicieux, compte tenu des faibles taux actuels, d'emprunter actuellement?
Alors, je vais essayer de répondre à votre première question. Sur le morceau de camembert correspondant aux subventions, dedans, vous avez y compris compte 471. Je ne sais pas si vous avez tenu compte. Il rentre à ce niveau-là dans la compta publique. Vous avez des amendes.
Oui, pour 100 000 euros à peu près. Oui.
Ah, sur le mandat, ça fait un peu plus, mais enfin, c'est pas grave. Les subventions qu'on a reçues d'investissement, d'accord ? Je vous ai marqué une date de 2014 à 2020, y compris ce qu'on pense recevoir pour 2020.
Oui, d'accord.
Vous êtes d'accord ? Mmh. Sur les recettes d'investissement, vous avez dedans le FCTVA, mmh, la taxe d'aménagement et les cessions.
Oui, vous m'avez répondu, oui.
D'accord ? Vous m'avez demandé, j'ai répondu. C'est pareil. Dedans, on a anticipé pour 2020, au niveau du FCTVA, au niveau effectivement de la taxe d'aménagement et des cessions potentielles.
Donc vous n'avez pas l'intention d'emprunter?
Pour l'instant, alors, votre remarque par contre sur l'emprunt, je pense qu'on peut avoir un vrai débat là-dessus. Effectivement, elle n'est pas complètement illogique vu les taux et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a pas prévu d'emprunter. Pourquoi, monsieur de Ripper? Je vous l'ai montré tout à l'heure dans le graphe du désendettement de la commune, ce qui permettait tout simplement, arriver en 2021, c'est-à-dire que l'année prochaine, il y a des élections. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur de Ripper? On sait très bien qu'une année d'élection, et comme on a des APCP, on est déjà dans un train, on a déjà de l'occupation voilà, derrière, et c'est compliqué pour faire un nouveau programme d'investissement. Donc, de laisser de la capacité à pouvoir investir pour l'équipe qui sera en place à partir de 2021, et donc de lui laisser la possibilité d'emprunter. Or, au jour d'aujourd'hui, on a débattu avec, en commission finance, on sait très bien que sur les taux 2019-2020 ne vont pas remonter. Si vous avez suivi un petit peu les derniers événements aujourd'hui de la Fed et ainsi de suite, vous voyez bien que derrière, on n'aura pas une évolution des taux pour 2019 et 2020. Non, Olivier, non, je suis désolé. Je ne peux pas le dire pour 2021, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, pour 2019 et 2020, on n'aura pas d'évolution de taux. Maintenant, c'est un choix. Soit on fait un emprunt maintenant et vous allez dire « Ah, monsieur Lejean, vous avez emprunté, donc on n'a plus de capacité à investir » ou ainsi de suite. Ou effectivement, on considère qu'aujourd'hui, on a les moyens de réaliser les investissements sans avoir besoin de l'emprunt. Maintenant, si on souhaite, et si le conseil municipal souhaite en faire un, je ne suis pas complètement opposé. Enfin, moi, j'ai aucun souci. Je reste dans un cadre. Après, tous les cas, je vous rappelle, hein, c'est qu'un DOP, c'est un débat d'orientation budgétaire qui est fait pour bouger.
Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Bonduel?
Oui, moi, personnellement, je pense qu'il faut faire un emprunt.
D'accord.
Si vous vous retrouvez, après les élections de 2020, à la tête de la commune, ce sera votre problème. Vous avez géré les finances depuis 2014, vous empruntez, vous avez fait une stratégie, vous la continuez. Supposez que vous ne soyez pas à la tête de la commune, que ce soit une autre équipe, elle va se retrouver avec des finances à quel niveau? Si on a tapé
alors,
sur la CAF...
C'est le contraire, c'est ce que vient de dire M. Lejean, c'est-à-dire que la nouvelle équipe aura la possibilité d'emprunter si elle veut réaliser un programme.
Oui. Moi, je pense qu'il serait quand même plus sage de maintenir une trésorerie à un niveau de réserve qui soit au moins...
Non, mais la trésorerie et la capacité d'autofinancement, c'est pas exactement la même chose. Hein.
Non, si on tape trop sur la CAF, on épuise. Ben, je ne sais pas. Moi, par exemple, je pense que le boulevard de la plage, qui sont quand même des investissements structurants pour la commune, il serait assez logique de les financer avec une partie en emprunt, je ne sais pas, la moitié, de 3 millions, pour faire supporter un petit peu la charge par les générations futures.
Bien sûr, ce n'est qu'un report. Hein. Si vous empruntez en 2020, le résultat sera quasiment le même. C'est simplement le date de déclenchement de l'emprunt qui changera. Hein. Enfin, franchement, en termes de lisibilité des finances de la commune, ça ne changera pas grand-chose. Après, voilà, on peut avoir... Moi, non, je respecte tout à fait ce point de vue. Hein, je n'ai pas de souci avec ça. Pour l'instant, on a choisi de ne pas le faire. Mais ça reste une option.
La différence, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les taux. Demain, on ne connaît pas. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Hein,
ils peuvent aussi baisser.
Baisser. Non, ils ne peuvent pas baisser, je ne pense pas. Non.
Ah, si, si, ils peuvent encore baisser. Hein. À un moment, il y avait des taux négatifs à la Banque Centrale Européenne. C'est peu probable, mais enfin, personne ne sait. Par définition, si quelqu'un connaissait dans cette salle l'évolution des taux, il serait richissime. Hein.
Regardez, sur la problématique de l'emprunt structuré, on a eu un débat hein, qui a été complètement ouvert. Moi, j'avais proposé de renégocier, puisque on dit on ne sait pas où qu'on peut aller. Est-ce que demain, on ne risque pas d'avoir une problématique? Tout le monde a dit qu'il y a très peu de chances qu'il y ait cette problématique-là, voire quasiment. OK. On a débattu 2 années. Je suis revenu avec, hein, un peu têtu, bourrique, je reconnais. Pas de problème, hein, je suis revenu avec. Monsieur Derrippeur, vous étiez d'accord avec moi? On peut le dire, hein. Moi, effectivement, j'ai considéré qu'il y avait un risque, on avait les moyens d'enlever ce risque-là. On sait que, dès le départ, de toute façon, on en a bénéficié, on avait gagné, puisque la différence des taux de l'emprunt structuré par rapport aux taux qui étaient en cours nous faisait gagner quand même un grand montant. Là, on avait un petit risque, on arrive à la fin. On a fait un montage qui nous permettait d'absorber quand même 90% de l'IRA. On avait un fonds de soutien. Oui, peut-être que demain, on me dira, mais Pascal, il n'y avait pas besoin de renégocier l'emprunt structuré. Oui, effectivement, c'est facile de dire après. Et de dire demain, est-ce qu'en 2021, on aura des taux, pour prendre un exemple, à 1,50 ou à 3, pour prendre cet exemple-là, oui, là, je ne suis pas. Pour 2020, on est quasiment sûr que les taux ne vont pas évoluer ou s'ils évoluent à la marge. Pour 2021, il n'y a pas. Maintenant, on réemprunte, on peut nous reprocher d'avoir réendetté la commune. Je vous rappelle quand même, il y a quelques années, hein, on est monté à quand même à 10 millions d'endettement. Hein. Parce que là, c'est peanuts. Mais il faut savoir que derrière, il y a une autre chose que vous n'avez pas intégrée, M. Bonduel, M. Derrippeur. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai bien précisé par rapport à notre problème qu'on a baissé en excédent dans le fonctionnement. Je vous ai parlé des amortissements. N'oubliez pas que les amortissements reviennent en recettes d'investissement. D'accord. Aujourd'hui, plus on va investir, plus ça va aller un peu plus vite. Automatiquement, les amortissements vont monter. Vous les avez vus, ils passent à 900 000 euros. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça permet d'avoir des ressources. Le SCTVA, on n'en parle pas. Mais plus j'investis, plus si je dépense ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Derrippeur, 10 millions en 2019, je vais avoir un retour de SCTVA qui va être beaucoup plus fort, puisqu'il va s'approcher des 2 millions. Donc, je vais avoir des recettes en investissement qui vont automatiquement grimper. On a un jeu d'écriture qui fait que l'analyse, on ne peut pas l'avoir comme nos entreprises privées. On est obligé de prendre un peu plus du recul parce qu'on a un décalage d'une année. Et là, on sait très bien que pour les années à venir, vu les investissements qui ont été faits, on va avoir des recettes à ce niveau-là, rien que sur le FCTVA, qui vont être très importantes. Donc, à un moment ou un autre, je pense qu'il faut mieux laisser l'équipe qui sera en place le choix de faire ce qu'elle veut en 2021 et de ne pas réendetter la commune alors qu'elle aura une capacité à pouvoir le faire par rapport à son programme.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Le Rouzic?
Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Lorsque vous dites que la taxe d'habitation, la taxe d'habitation va baisser, notamment les taux, en fait. Une baisse des taux sur 3 ans. Mais il faut savoir qu'à Carnac, la base de la valeur locative est très élevée et continue d'augmenter. Alors en compensation, vous pouvez baisser les taux, mais les impôts sur la taxe d'habitation ne baissera pas.
Non mais attendez, on va revenir au graphe là, parce que effectivement, je ne vous ai pas donné une petite info. Dans ce que vous venez de dire, M. Le Rouzic, vous avez tout à fait raison. Ceci dit, la décision de l'augmentation des bases d'imposition, c'est l'État. L'année dernière, nous avions 1,01. Cette année, on nous a envoyé, d'accord, 2,20. Ce n'est pas moi qui décide. Et effectivement, quand j'ai reçu 2,20, et dans mon tableau, vous le voyez bien que même en baissant les taux, effectivement, au global, l'impact, on ne le voit pas. Je suis d'accord avec vous.
Justement,
mais y a pas de problème.
On ne parle pas mais de l'évolution de la valeur locative. On parle que des taux.
Chacun. Monsieur Le Rouzic, vous ne pouvez pas reprocher à l'équipe municipale un ratio sur lequel elle n'a pas la main. C'est trop facile. Hein. Vous, quand vous étiez. Quand vous êtes nommé, Monsieur Le Rouzic, d'abord, vous exprimer quand j'aurai fini et quand Monsieur Lejean aura fini, chacun son tour. Donc, moi, je veux bien être tenu pour responsable pour les décisions pour lesquelles nous avons la main et nous avons, je dirais, les leviers. Sur celui-là, on ne l'a pas. C'est une décision de l'État. Donc, évidemment, c'est un point de vue technique, vous avez raison, mais on ne peut pas reprocher ça à la municipalité.
Vous communiquez sur la baisse des taux, mais vous ne parlez pas de l'augmentation de la base de la valeur locative.
D'abord,
qui viendront en compensation.
On communique sur ce qu'on veut, petit 1, et petit 2, on communique sur les choses sur lesquelles on a la main.
Je peux me permettre, monsieur le maire ? En fait, ça permet de stabiliser le niveau d'impôt pour les Carnacois. Je me permets de dire ça, parce que l'an dernier, je m'étais un peu opposée à cette augmentation d'impôt, mais le fait justement que les bases augmentent, ça permet cette stabilité d'impôt, et c'est ce pourquoi on s'était engagé lorsqu'on s'est présenté en 2014.
Donc on ne peut pas dire que les impôts baissent. Mais, monsieur Le Rouzic, on ne baisse pas les impôts, on baisse le taux. On vote un taux. C'est quand même pas à vous que je vais apprendre ça. Quand même, monsieur Le Rouzic, depuis le temps, vous êtes au conseil municipal. Donc c'est un taux. Qu'est-ce qu'on communique ? Quand vous nous avez reproché d'augmenter, vous avez bien reproché d'augmenter le taux. C'est bien. Donc on baisse un taux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, à l'instant T, dans la poche des Carnacois ? Effectivement, ils ne vont pas payer moins d'impôts. Ils en paieraient moins que ce qu'ils auraient dû payer. D'accord ? Mais... Alors, vous pouvez tourner. Non, je finis. Parce que là, une petite chose qui me taquine un petit peu. Comme on a décidé d'augmenter les taux en 2014, si vous pouvez couper. On a aussi décidé d'augmenter l'abattement pour les résidences principales. Ça, vous n'en parlez pas. Donc, il faudrait un moment qu'on soit quand même conscient que derrière... Quand on a augmenté notre fiscalité, on a quand même décidé à un moment de la faire supporter le maximum par les résidences secondaires. Alors je vous rappelle que ACTA, lui, a fait le contraire. Donc il a supprimé les abattements qui existaient sur certaines communes, au niveau de la communauté de communes, merci, derrière, et qu'il a fait supporter l'augmentation de la fiscalité sur des résidences principales. Or, dans notre zone géographique, on aurait dû faire le contraire.
Est-ce qu'il y a d'autres points sur Monsieur Bonduel ?
Oui, je voudrais revenir sur l'endettement. Est-ce qu'une commune peut s'endetter sans dossier ?
Je ne comprends pas la question.
Eh bien, est-ce qu'elle peut se...
Ah oui, sans le lier à un financement ou à une opération.
On peut refinancer des investissements, si c'est ta question. Ce qui a été fait dans l'emprunt structuré, à l'époque, c'était un refinancement des emprunts existants plus certains investissements qui a été fait derrière. C'est pas ce qu'il y a de plus logique. L'idée est plutôt aujourd'hui de flécher les emprunts par rapport à des investissements parce que quoi qu'il arrive demain, s'il y a un transfert de compétences, ça permet de valoriser effectivement la compétence qu'on transfère et pas un calcul alambiqué qui aura tendance d'ailleurs à disparaître. Je vais quand même vous rappeler une chose. On a eu la Chambre régionale de la Cour des comptes qui est venue nous auditer en tout début de mandat. Effectivement, on a eu une partie sur la première année de la gestion financière de notre équipe. J'avais commencé à vouloir mettre certaines choses en place qui changeaient un peu les règles du jeu classiques, ou je dirais habituelles, qui posaient problème, qu'on me disait, mais monsieur Lejean, on ne peut pas faire comme ça, ce n'est pas de la compta privée, on ne peut pas gérer la commune comme... une entreprise ou du moins se rapprocher de l'entreprise. Lorsqu'on a eu la Cour des comptes, il y a un moment, elles ont quand même dit qu'effectivement, ce qui avait commencé à mettre en place, c'est ce qu'il fallait faire. Quand j'ai fait une évaluation des bâtiments et j'ai dit derrière, on va prendre comme base ce que coûte le bâtiment, l'achat du bâtiment ou les travaux du bâtiment, et on ne va pas y mettre un amortissement parce qu'il n'existe pas, mais on va y mettre un coût d'entretien sur une base de 30 ans pour définir ce que va payer l'occupant, on nous a répondu, effectivement, monsieur Lejean, vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Merci à tous. Monsieur Oudot.
Ouais, Pascal, j'aurais juste revenir sur ce que tu disais. Donc, si la commune fait un investissement, en 2019, elle peut le refaire, enfin, elle peut le financer, ou utiliser un prêt pour le refinancer, en fait. C'est-à-dire qu'on le paye et on le finance après.
Dans la collectivité, tu n'as pas ce qu'on appelle...
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais...
Si, tu peux couper ton téléphone. Quand tu fais un investissement dans le privé,
en général, les banquiers vont prendre des garanties. Si tu investis dans du matériel, si c'est un bâtiment, ils vont prendre une hypothèque. Si c'est du matériel, ils vont prendre un nantissement. Donc, effectivement, là, on va flécher sur l'investissement réalisé l'année. D'accord ? Dans la collectivité publique, il n'y a pas cette problématique-là.
Donc, si on suppose l'exécution totale de ce plan d'investissement, et si on suppose aussi que le financement de tous ces investissements se fasse comme il est prévu dans le DOB, on arrive à quel niveau de trésorerie en fin de parcours si on n'a pas de dette?
Si tu prends ce dossier-là, tu prends le camembert d'avant de la dépense, tu prends le camembert de la recette, tu fais la différence, plus ce qu'il y avait au départ. Et il faut pas sortir, je suis désolé, il faut pas faire plus simple.
Ça fait quel niveau?
Bah, tu prends les 29 millions, nanana, tu fais 30 246 moins 29 millions et des brouettes, et tu regardes la trésorerie qui avait au départ et tu as la trésorerie de sortie.
Ça fait quel niveau?
Excuse-moi, j'ai pas fait le calcul.
Il n'y aura pas de souci de trésorerie, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je ne suis pas sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Je vous remercie, ce débat d'orientation budgétaire est donc clos et je vous propose de passer au point 9, Monsieur Marc Albert, la convention de partenariat avec le SDIS 56 au titre de la formation des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Question très importante, hein, on manque de bénévoles. Y compris d'ailleurs sur la commune, même si nous allons avoir des pompiers professionnels supplémentaires.
Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 56, organise régulièrement des sessions de formation des sapeurs-pompiers volontaires. Afin de réaliser ces exercices au plus près de la réalité du terrain, le SDIS 56 sollicite la commune pour mettre à disposition les équipements publics comme la mairie, les équipements sportifs, résidences d'autonomie, le restaurant scolaire. Et les agents communaux pourront être amenés à participer ou assister à ces exercices. Donc la commission de travaux donne un avis favorable à cette convention. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Je pense que tout le monde est d'accord, hein, c'est vraiment fondamental. Unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Toujours une convention, Monsieur Marc Albert, de la mise à disposition des personnels du SDIS 56 pour la surveillance des plages et les activités nautiques pour notre saison estivale.
Comme les trois dernières années, nous avions eu le SDIS qui s'occupait de la surveillance de nos deux zones de baignade et en même temps de l'accueil handicapé. Une nouvelle convention a été faite pour les trois ans à venir avec 13 sauveteurs nageurs diplômés pour assurer cette mission pour un montant de 62 500 euros par an.
Voilà. Bon, là aussi, ça se passe vraiment très bien. On est ravis des services du SDIS dans les activités de surveillance des baignades, des activités nautiques. On renouvelle donc cette convention pour 3 ans. Pas d'objection? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, on passe à la participation citoyenne. Je crois qu'on avait déjà eu une présentation au conseil municipal sur ce dispositif. Et cette fois-ci, c'est la signature du protocole avec le préfet et la gendarmerie qui devrait avoir lieu donc d'ici quelques semaines à Carnac.
Tout à fait. Donc on avait parlé à un conseil municipal à la délibération du 6 juillet 2018. Il y a eu une réunion publique organisée le 22 novembre par la gendarmerie afin d'expliquer le dispositif à la population et le découpage de la commune en 34 quartiers et inviter les personnes volontaires à participer, proposer leur candidature. À ce jour, six personnes ont été retenues par la gendarmerie. Celles-ci pourront avoir la possibilité de procéder au redécoupage s'il y a besoin en fonction du nombre de référents. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont présentés qui ont été sélectionnés par la gendarmerie et d'autres qui le sont. Et après, il y aura un référent de la gendarmerie où ces personnes-là pourront appeler la gendarmerie quand ils verront des choses anormales dans leur quartier. Donc voilà.
Parfait. Des questions sur cette convention? Je crois qu'on a largement débattu déjà. Donc pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 12, acquisition de la parcelle BK865. Monsieur Marc Albert.
Ça, c'est une petite parcelle qui se trouve au chemin des Calfats. Le terrain a été vendu et on s'est mis d'accord avec le propriétaire pour l'aligner, ce qui était prévu dans le PLU. Donc, on lui rachète les 74 mètres carrés au prix de 10 euros, comme on fait très souvent pour les alignements. Et donc, le propriétaire est d'accord, tout va se faire assez rapidement.
Pas de questions. Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport suivant. Il s'agit donc de la cession des parcelles AM100, 101 et 193 appartenant à la commune située donc 7 allée des Goémons à la SCI des Druides. Donc on a tous suivi depuis quelques années les tribulations du développement et de l'installation du Super U à Carnac, hein, qui dans un premier temps avait été envisagé à la zone de Montauban pour des raisons que vous connaissez. Liés au SCOT, à la zone humide et à un certain nombre de dispositions d'ordre urbanistique, eh bien ce déménagement n'a pu se faire. Et M. Doriel est revenu vers nous il y a quelques semaines, quelques mois même, pour nous signifier sa volonté de développer et de rénover son Super U sur l'emplacement actuel. Je vous rappelle que cette majorité avait pris l'engagement auprès de M. Doriel le jour où il accepterait de revenir à la table des négociations pour développer ce Super U à cet endroit, car je pense que c'est un endroit parfait pour Carnac, ses commerçants et la centralité de nos espaces économiques. Eh bien, nous lui avions signifié que nous étions prêts à envisager la cession de ce terrain, dont il a besoin évidemment pour pouvoir réaliser à la fois l'extension et la réalisation de la rénovation de ce Super U. Vous savez que c'est très encadré par la loi. Et donc, à ce titre, nous avons demandé, puisque, évidemment, pour céder un terrain, il faut un avis des domaines, nous avons demandé l'avis des domaines sur ces parcelles, qui a été rendu, donc, comme vous le voyez, le 17 septembre 2018, pour une valeur de 920 000 euros. Et pour éviter, évidemment, toute polémique sur le sujet, je vous rappelle que ce terrain a vu son estimation baisser et pour cause à cause du PPRL. Je vous rappelle également qu'il y a une petite partie de cette emprise est aujourd'hui constructible, et même un certain nombre de parties constructibles, en fait, dans les faits, ne le sont pas, puisque notamment le chemin d'accès qui est en bleu, évidemment, qui est constructible, ne le sera jamais, puisque en raison de la nécessité d'accès à la parcelle. Et donc la municipalité vous propose, eh bien, dans le cadre de cette rénovation du Super U, eh bien, de céder à la SCI des Druides pour un montant de 920 000 euros, qui est exactement l'estimation des domaines, ce terrain pour y construire, évidemment, et ce sera l'objet d'un certain nombre de clauses suspensives dans la promesse de vente, uniquement la réalisation de l'extension du Super U et rien d'autre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce rapport? Monsieur Deripin.
Oui, nous regrettons la solution que vous adoptez. On pense que cette solution n'est bonne ni pour le commerçant, ni pour les habitants. Le transfert à Montauban avait fait l'objet d'un consensus des deux municipalités qui avaient traité le dossier, dont la municipalité à laquelle vous avez appartenu. Et d'ailleurs, les terrains ont été vendus sous votre mandat. On pense que l'extension du Super U dans une zone urbanisée est destinée à l'urbanisation. C'est une zone UBB. Ça n'est pas compatible avec la qualité de vie des riverains et ce n'est pas compatible avec l'environnement. Alors, on est d'accord avec la modernisation et la mise en œuvre du magasin, parce qu'en effet, elle en a bien besoin. Là-dessus, on est d'accord. Mais on ne peut pas approuver les conditions dans lesquelles ça va se réaliser.
Je vous rappelle que, oui, effectivement, certaines municipalités dont j'ai appartenu étaient d'accord avec ce transfert. Si ce transfert ne s'est pas réalisé, c'est à cause d'un certain nombre de dispositions légales, et notamment l'inscription par la municipalité précédente au SCOT de la limitation des mètres carrés commerciaux dans la zone. Donc, moi, je veux bien que tout le monde soit d'accord. Je rappelle aussi qu'il y a eu un permis de construire qui a été déposé, qui a été refusé quelques jours avant l'élection municipale la dernière fois. Ce dossier est extrêmement compliqué, vous le savez, hein, et je pense que vous avez eu l'occasion d'échanger avec M. Doriel. Il vous a dit aussi que, selon son analyse, ce déménagement aujourd'hui est totalement impossible et tellement improbable que lui-même a renoncé à ce déménagement. Donc, encore une fois, on peut effectivement, et c'est parfaitement respectable, de penser que le Super U aurait été mieux à Montauban. Je regarde simplement ce qui se passe dans un certain nombre de communes où, encore une fois, on a créé ces zones périurbaines, périphériques, largement bitumées, avec des grands espaces commerciaux dans lesquels viennent s'installer des chaînes nationales et internationales, et notamment la grande distribution. Et je constate, parce que c'est un fait avéré partout sur le territoire national, que ça a pour conséquence de totalement finalement vider les centres-villes, de vider les centres-bourgs, de tuer le petit commerce. Et donc, je pense qu'il faut plutôt privilégier les synergies, et notamment la proximité géographique, plutôt que de déporter le commerce. Parce que, encore une fois, on a tellement d'exemples autour de nous, monsieur de Ripper, de centres commerciaux qui ont été créés en périphérie des villes et qui ont tué la vie sociale, qui ont tué la vie commerciale, qui ont tué le petit commerce. Vous savez aussi comme moi qu'un emploi créé dans la grande distribution, ça en tue trois dans le petit commerce. Je pense qu'il faut faire très attention, surtout dans les espaces fragiles, à faire en sorte que l'équilibre entre la grande distribution et le petit commerce soit respecté, parce que, encore une fois, le petit commerce, c'est la proximité, c'est la qualité de vie, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'emplois. Et c'est des emplois qui s'autofinancent, j'allais dire, c'est des gens qui se versent le salaire et le fruit de leur labeur. Et je crois que c'est important. Donc le Super U marche très bien, hein, il suffit de regarder son chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est la preuve que l'emplacement n'est pas si mauvais que ça. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, M. Doriel vous l'a dit, il privilégie cette hypothèse et il ne veut plus aller à Montauban. Donc je pense que là aussi, aujourd'hui, le consensus, c'est plutôt d'aller vers là.
Pouvez-vous nous rappeler combien de mètres carrés fait ce terrain? Donc 4090 mètres carrés, 920 000 euros. Donc, et la zone donc, pas humide, mais orange-rouge, représente quelle surface? Non, un tiers, d'accord. Donc ça fait à peu près 2500 mètres carrés de constructible quand même. Ça fait 2500 mètres carrés de constructible, donc ça fait un prix de revient au mètre carré d'à peu près combien? Combien, monsieur Chapelle? Non, un peu moins. Donc 340 euros du mètre carré. Non, mais c'était que pour préciser le prix du mètre carré.
Madame Le Gaulement, je trouve. Alors, il y a un truc qui est quand même fort de café. Quand M. Doriel nous réclamait 5,4 millions d'indemnité pour son non-déménagement à Montauban, vous lui donniez des documents en faveur de sa procédure légale. C'est-à-dire que vous aidiez un plaignant de la commune qui réclamait 5,4 millions aux contribuables carnacois à nous prendre de l'argent. Et aujourd'hui, vous nous faites une réflexion complètement arbitraire, parce qu'en fait, vous le savez très bien, je pense que vous avez échangé avec celui qui porte le projet. Vous savez très bien qu'au prix du mètre carré constructible, ce terrain, on le vend plus cher que la parcelle qu'il a vendue en face et sur laquelle il a fait une promotion immobilière. Donc je trouve un peu fort de café, Madame Le Gaulement, votre intérêt à géométrie variable pour l'intérêt du contribuable carnacois. Je suis désolé, je ne vous pardonnerai jamais d'avoir donné des pièces dans une procédure comme ça à quelqu'un, à un plaignant qui poursuivait la commune, alors que vous êtes conseillère municipale et que vous devez défendre l'intérêt des carnacois et pas des intérêts privés. C'est une faute, Madame Le Gaulement. Et cette remarque, elle est complètement non pertinente.
Alors, concernant les pièces dont vous parlez, de quelles pièces parlez-vous exactement?
Vous avez, mais on ne va pas en reparler, Madame Le Gaulement.
C'est important, précisez.
Vous n'avez pas
devant
transmis
tout le monde ici. Ouais. Vous rabâchez ça sans arrêt. Or, vous
mais
n'êtes
c'est
pas
la vérité.
Irréprochable.
C'est la vérité. Vous avez transmis votre convocation
municipal, d'accord? Cette convocation est affichée sur la porte de la mairie.
Sauf que c'est vous qui l'avez transmise.
Et la convocation est aussi
sur
le site internet. Arrêtez. Je pense que tout le monde
Sauf
autour de cette
table...
Sauf
que c'est vous qui l'avez transmise, Madame Le Gaulement.
Je suis contente d'entendre aujourd'hui et ce soir que c'est une convocation. Tout le monde sait que cette convocation est sur la porte et sur le site de la mairie.
Mais c'est vous qui l'avez transmise. Voilà. Votre non-réponse en est une, Madame Le Gaulement. C'est vous qui l'avez transmise. Il n'est pas venu la photocopier sur le mur. Donc vous aidiez un plaignant à récupérer 5,4 millions d'argent du contribuable carnacois. Donc n'essayez pas de vous défiler, ayez au moins la reconnaissance de vos actes et le courage de le reconnaître.
Cette convocation, il pouvait l'avoir de toute façon, donc je ne vois pas ce que vous...
Oui, mais c'est vous qui l'avez transmise. Mais c'est vous qui l'avez transmise.
Mais vous aimez...
Ce qui n'est pas la même chose. Non, moi j'aime pas, Madame Le Gaulement. Je n'aime pas. Je n'aime pas quand on joue à un petit jeu politique et qu'on dénonce des dépenses dispendieuses à un moment, alors que dans le même temps et quelques années avant, on aide quelqu'un qui est un plaignant contre la commune à récupérer de l'argent du contribuable carnacois. Ça, c'est jouer avec l'honneur, Madame Le Gaulement. Parce que vous êtes ici conseillère municipale, vous devez défendre l'intérêt des carnacois et pas des intérêts privés. C'est ce que vous avez fait dans cette affaire et c'est inadmissible.
Non, je défends les intérêts des carnacois, monsieur le maire.
De passer au vote.
Super. Je voudrais moi aussi revenir sur ce que vous avez dit et sur le bitume. Parce que vous parlez du, vous avez parlé du bitume et des zones bitumées et les zones, la zone de Montauban qui pourrait être bitumée avec, avec la construction de, du Super-U. Je vous rappelle que là, le fameux le terrain des Goémons dont on parle, il va être complètement bitumé. Hein. C'est-à-dire qu'on est en pleine zone. Si, si, complètement.
Non, non, complètement. Non, 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 pas complètement.
Si, si, complètement.
Non, 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 pas complètement. Si, si. Vous avez vu le permis?
J'ai pas vu. Le permis n'a pas encore été instruit.
Ah, non, mais moi j'ai vu le projet, monsieur le
Ripper. Alors,
ben alors, ce ne sera pas complètement bitumé.
Vous pensez avoir le sol
ce sera pas complètement
le
bitumé.
Avoir vu le projet?
Ce ne sera pas complètement bitumé.
On verra le résultat, monsieur.
Monsieur de Ripper, on verra le résultat, tout à fait, bien sûr. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce que vous ne votez même pas contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très courageux, bravo. Et j'imagine que le reste est pour. Je vous remercie.
Vous pourriez vous dispenser de ce genre de commentaires, monsieur le maire.
Monsieur de Ripper, vous prenez la parole quand on vous la donne. C'est les règles du conseil municipal. OK? La délibération est donc acceptée. Délibération numéro 14. Monsieur Marc Albert, le projet de carrefour du Nignol. Enfin.
Après persévérance et aide de pas mal de personnes, nous sommes arrivés à acheter le terrain pour pouvoir faire le rond-point du Nignol. Comme il y a un mégalithe dedans, nous avons des fouilles préventives à faire. Nous avons fait une convention avec le département pour le diagnostic archéologique. Et donc, ils nous ont demandé de couper tous les arbres qui sont sur le terrain et sur le côté, mais tous les terrains qui nous appartiennent, afin de pouvoir faire ces fouilles. Donc, les arbres vont être coupés début avril. Ça ne va pas être très beau, je vous avertis, parce qu'ils vont tout couper, mais on n'a pas le droit de couper, enlever les racines. C'est eux qui fouilleront après. Et donc, pour le 15 avril, les fouilles vont commencer. Donc, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, s'arrêter et puis ne pas recommencer. Ou alors, s'ils trouvent des choses, de nous refaire des fouilles définitives avec tout ce qu'il peut y avoir derrière et du temps passé et de l'argent pour la commune.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention avec le service départemental? Pas de vote contre? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On passe au dernier rapport, le rapport 15, monsieur Marc Albert, sur le syndicat départemental énergie du Morbihan avec des bornes 7 pour des. Faut charger des vélos, c'est ça, dans le cadre du projet Boulevard de la Plage.
Donc c'est des bornes 7 justement pour charger les vélos et les téléphones portables qui seront programmés dans les horaires pour qu'on ne puisse pas s'en servir 24 heures sur 24 de façon qu'il n'y ait pas des gens qui viennent brancher leur portable et faire de la musique toute la nuit. Donc il y en aura 4, il y en aura 2 qui seront sur l'esplanade, une qui sera à côté du poste de secours où il y a l'accueil handicapé, une qui sera à la pointe Churchill, donc pour un montant de 9 240 € TTC, dont 1 540 € de TVA. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce monsieur Lourzic?
Se brancher, ce sera payant ou gratuit?
Ce sera gratuit. C'est pour favoriser les circulations douces et puis les vélos électriques notamment qui se multiplient de plus en plus.
Et les portables aussi. Hein.
Les portables aussi, oui. C'est un service qu'offre la commune, mais bon, c'est des consommations qui seront limitées. Hein. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. N'ayez pas de questions diverses ou orales. Le conseil municipal est donc clos. Je vous remercie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le vote du budget. Merci.